On était en train d'étudier, je crois, le Shmona Esrei, non? La Amida. Alors, vous pouvez ouvrir dans le Sidour à la première bracha. Il y en a plein des Sidourim. Ah, il y en a ici. Très bien. Haël, Agadol, Agibor, Vanora et Lélion. Voilà, ça c'est une phrase qu'on trouve dans la première bénédiction. Je reprends. Haël, Agadol, Agibor, Vanora et Lélion. Alors vous avez remarqué, on a parlé de cette dualité entre les deux mots Haël, n'est-ce pas? Au début c'est Haël, après ça devient Lélion. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'étude des mots intermédiaires. Hagadol, Hagibor, Vanora. Alors on avait commencé à expliquer que Gadol signifie infini, Gibor ça veut dire le contraire, c'est celui qui se retire, et Nora c'est l'équilibre entre les deux. Et ça correspond effectivement au Midot de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham étant celui qui connaît Dieu en tant que créateur, donc l'étendue, et puis il y a Yitzhak qui connaît la Midat Adin, donc la restriction, et Yaakov qui fait l'équilibre entre Abraham et Yitzhak. Mais cette expression de ces mots, Gadol, Gibor et Nora, où est-ce qu'on les voit pour la première fois dans la Bible? Dans le livre de Devarim, dans le discours de Moshe avant sa mort. Moshe s'adresse aux enfants d'Israël, il leur dit « Ki Hashem Elohechem, car l'Éternel votre Dieu » Ou Elohe à Elohim va donner à Adonim, c'est lui le Dieu des dieux et le maître des maîtres. Ça veut dire quoi? Votre Dieu, c'est le Dieu des dieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est votre Dieu directement, c'est-à-dire la relation entre Dieu et Israël est une relation directe, et chez les nations, elle est intermédiaire. Il est celui que les nations reconnaissent comme étant le Dieu des dieux. Ha'el Agadol Agibor Vanora, il est le Dieu grand, puissant et redoutable. Asher loi sapanim veloi kar shochad, qui ne fait pas de préférence, qui ne prend pas de tentation, de peau de vin. Ose mishpat yatom valmana, qui fait le jugement de la veuve et de l'orphelin, etc., etc. Donc, on voit que Moshe Rabbeinu a employé trois expressions à la fois, Gadol, Gibor, Nora. C'est comme s'il voulait dire, bien qu'il ait le Dieu des dieux et le maître des maîtres, eh bien, sachez qu'il est à la fois Gadol, Gibor et Nora en même temps. Cette expression, on la retrouve plus tard chez les maîtres de ce qu'on appelait les membres de la Grande Assemblée. Vous connaissez les membres de la Grande Assemblée? Anshei Knesset Agdola, c'est quoi cette Grande Assemblée? C'était les dirigeants du peuple au temps du retour de Ezra et Néhémia, lors de la reconstruction du temple, lors de la construction du deuxième temple après l'exil de Babylone. Les juifs sont revenus à Jérusalem, ils ont reconstruit le temple, et ils étaient dirigés par un conseil qu'on appelait la Grande Assemblée, Knesset Agdola, qui était formée au départ de 120 membres, d'où le nombre de 120 députés à la Knesset dans l'État d'Israël, à cause de ça. Et donc, cette Knesset Agdola, ils ont fait beaucoup de choses importantes. Une des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont éliminé du monde l'instinct de l'idolâtrie, le paganisme. Yitzra d'Arvodazara. Ils ont également institué les prières. Enfin, ils ont fait beaucoup de choses importantes. Ce n'est pas le moment de reprendre toute leur œuvre. Et nous avons dans le livre de Néhémia une prière qu'ont adressé à Dieu les Anshei Knesset Agdola, les membres de la Grande Assemblée. Et dans cette prière, ils disent, entre autres, Haël, Agadol, Agibor, Vanora, le Dieu grand, vaillant et redoutable. Et donc, ils ont repris l'expression de Moshe. Et le Talmud nous dit, dans Maseret Berachot, que les trois mots, Gadol, Gibor, Vanora, si Moshe ne les avait pas dit, et qu'ils n'avaient pas été repris par les hommes de la Grande Assemblée, eh bien, on ne les aurait pas dit dans la prière non plus. Ce qui veut dire que donner quelque chose qui ressemble à une définition de la divinité devrait être interdit. C'est blasphématoire. Comment? Tu vas définir Dieu? Tu vas dire il est Gadol, Gibor, Venora? Mais tu peux le faire uniquement parce que Moshe et les hommes de la Grande Assemblée l'ont dit. Ah bon? Et alors ça ne fait que reposer la question. Pourquoi est-ce que Moshe et les hommes de la Grande Assemblée se sont permis de donner des définitions? Et ça va plus loin, parce que on voit par exemple dans la prière du prophète Jérémie, Kirmiyahu, lors du siège de Jérusalem, lorsque les Babyloniens étaient en train de s'emparer de la ville, au moment ils étaient en train de faire la conquête, ils allaient bientôt s'emparer de la muraille, le prophète Kirmiyahu, qui est en prison à Jérusalem, adresse une prière à Dieu. Et c'est juste au moment où le cousin de Jérémie traverse les lignes des ennemis pour rentrer dans Jérusalem. Il arrive dans la prison de Jérémie. Il dit « Voilà, je suis venu te vendre mon champ. » Remarquez l'illogique de la scène. Les gens se font massacrer à droite, à gauche. Et puis lui, il dit « Voilà, je suis venu parce que j'ai un champ à te vendre. Tu veux acheter ?» Alors, Jérémie dit « Bon, alors j'ai compris que ça venait de Dieu. » Et alors, ils écrivent un contrat de vente. Jérémie achète le champ de son cousin, de son neveu, c'est pas très clair en tout cas. Et ils écrivent le contrat, et ils prennent le contrat, ils le mettent dans une cruche d'argile, qu'ils enterrent. Et Yirmiyahu, à ce moment-là, prophétise, et il dit, « Sachez que viendra un jour, où bien que vous voyez l'État est en train de tomber, eh bien un jour on reviendra, et il faudra avoir des documents. » Et c'est pour ça qu'il faut que vous écriviez vos droits sur des papiers que vous mettrez dans des cruches d'argile pour les retrouver lors de votre retour. Et au moment où il fait cette prophétie, il adresse une prière à Kadosh Baruch Hu dans laquelle il rappelle l'histoire depuis la sortie d'Égypte. Non, il parle de la création du monde, de la sortie d'Égypte. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Ha'el ha'gadol ve'agibor. Il ne dit pas Hanoura. Toi, tu es le Dieu grand et vaillant. Mais il ne dit pas redoutable. Et la Guémara explique pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit redoutable? Parce qu'il disait comment est-ce que les ennemis de Dieu peuvent rentrer dans son temple et s'amuser dans son sanctuaire? Et on dit qu'il est redoutable. Il n'est pas redouté. Donc il a dit Gadol et Gibor. Et puis, quelques années plus tard, nous avons le prophète Daniel, qui est en exil à Babylone. C'est 70 ans après la fondation de l'Empire babylonien. Et Daniel dit, mais enfin, le temps est long, nous sommes encore en exil, comment cela est-il possible? Et il adresse une prière à Kadosh Baruch Hu dans laquelle il dit, Ha'el Agadol Ve'anora, le Dieu grand et redoutable. Il ne dit pas Gibor, il ne dit pas vaillant. Et le Talmud explique pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit vaillant. Eh bien parce que, comment ses enfants sont dispersés parmi les nations, et il est vaillant. Donc il a dit Gadol et Nora, il n'a pas dit Gibor. Et puis, après 20 ans, 18 ans plus tard, il y a le retour en Eretz Israël, on construit le Beth Amikdash, et alors les hommes de la Grande Assemblée font une prière dans laquelle ils disent à Kadosh Baruch Hu, Gadol, Gibor, Venora. Et c'est-à-dire qu'ils ont rétabli la liste complète. Et la Guémara dit que c'est la raison pour laquelle on les appelait la grande assemblée, qu'il y avait de grands. Et bien, ils y avaient, ce qui était grand, c'est qu'ils ont Ehezir ou Atara le Yoshna. Ils ont ramené la couronne à sa place, puisqu'ils ont dit Gadol, Gibor et Nora. Et le Talmud rajoute, n'était-ce que Moshe avait dit cette expression, et que les Anshei Knesset Gdola l'ont dit, on ne le dirait pas dans la prière. Alors, tout ce que je viens de dire là, chaque phrase soulève une question gigantesque. Il y a énormément de questions énormes qui sortent de ce texte. Tout d'abord, pourquoi est-ce que Jérémie et Daniel se permettent de supprimer certains des attributs de Dieu? Qui sont-ils? De quoi ils se mêlent? Comment? Ils n'ont pas été punis, du tout. Ils avaient raison. Mais alors, Moshe, je vais voir Jérémie. Je lui dis, mais enfin, monsieur le prophète, Vous croyez en la Torah ? Bien sûr, je crois en la Torah. Puis-je me permettre de vous rappeler qu'il y a un verset dans la Torah qui dit Gadol, Gibor et Nora ? Oui, je connais. Je n'ai pas oublié. Vous y croyez, Gadol, Gibor et Nora ? Mais bien sûr, j'y crois. Ben alors pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Il dit parce que je ne le ressens pas. C'est-à-dire, je sais que c'est vrai, mais je ne le ressens pas. Comme je ne le ressens pas, je ne peux pas le dire dans la prière. Je peux le dire dans l'étude, mais je ne peux pas le dire dans la prière. C'est-à-dire, l'étude dit des vérités éternelles, la prière dit des vérités vécues. Si ce n'est pas vécu, ça ne peut pas être dit. Ça explique donc pourquoi, parce que la question se pose aussi pour Daniel, et aussi pour les hommes de la Grande Assemblée. Pourquoi est-ce que les hommes de la Grande Assemblée ont dit Gadol, Gibor et Nora ? La Guémara dit, c'est parce qu'ils ont vu que une brebis a été jetée au milieu de 70 loups et n'a pas été dévorée, grand est son berger. Et donc ils ont dit Gadol, Gibor, Venora. C'est qu'ils avaient besoin eux aussi d'une justification. C'est-à-dire qu'il fallait avoir expérimenté dans l'histoire réelle que ce que dit Moshe est vécu, pas simplement affirmé. C'est alors qu'on peut le dire dans la prière. Donc nous avons un grand principe, c'est que la prière ne dit que des choses réellement vécues. En principe, même si c'est contraire à ce qui est écrit dans la Torah. J'ai connu un tzaddik qui avait été à Auschwitz, qui en est sorti. Et comme il était jeune à l'époque, il était employé pour aller travailler dans la forêt, avec un groupe de juifs qui allaient travailler dans la forêt pendant des heures. Ils étaient gardés donc par les Allemands. Et puis comme ils avaient beaucoup d'heures de travail, il y avait un moment où comme les Allemands gardaient de loin, ils s'arrêtaient de travailler pour faire la prière de Mincha. Et au moment de la prière de Mincha, ça commence avec chez Ashkenazim par Ashré. On fait Ashré, Yoshvé, Vetera. Il y a une série de louanges de Dieu. Et quand ils sautaient un verset. Le verset Tov Hashem Lakol Verachama Valkol Maasav. Dieu est bon pour tout. Sa miséricorde s'étend sur toutes ses créatures. Eh bien, cette phrase-là, ils ne la disaient pas. Ils la sautaient. Pourquoi ils ne le disaient pas ? Parce qu'ils ne le vivaient pas. C'est à Auschwitz, on ne pouvait pas dire que la miséricorde de Dieu s'étend sur tout, et donc ils sautaient ça. C'était bien ou pas bien ? C'est-à-dire qu'ils savaient faire la prière. C'est-à-dire que pour eux, la prière est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas simplement un récitatif. D'accord ? Donc, vous voyez ça également. Donc, pour qu'on puisse dire Gadol, Gibor et Nora, que ce soit quelque chose qui engage tout Israël, il faut que ça ait été vécu au niveau collectif, pas au niveau individuel, au niveau du clal. Que tout le clan ait vécu ce Gadol, Gibor et Nora, et à partir de ce moment-là, ça peut être introduit dans la prière. C'est bien clair ? Bon. Ça veut donc dire que quand Moshe a donné des définitions, ce n'est pas des définitions métaphysiques, ce n'est pas de la philosophie ce que fait Moshe. Quand Moshe dit Gadol, Gibor et Nora, c'est-à-dire que c'est comme ça que c'est ressenti par Moshe en tout cas. D'accord ? Bon. On peut continuer ? Bon, on va continuer. Disons comme ça, quand je demande si je peux continuer, ça veut dire que s'il y a des questions, il faut les poser. Donc la question, est-ce que tu peux poser une question, n'est pas une question. Vas-y. Ah, pourquoi ? Comment est-ce que les Anshei Kesed Gedola ont fait pour supprimer l'arbre d'Azara ? Comment ils ont fait pour faire ça ? C'est très simple, la Guémara dit qu'ils ont prié. Bon, mais ce n'est pas très clair. La Guémara dit qu'ils ont prié et qu'ils ont crié Baya Baya. Baya Baya. C'est-à-dire qu'ils ont dit Bye Bye au Yetzerara. N'est-ce pas ? Bye Bye. Baya Baya. C'est comme ça que c'est la Guémara. Ça veut dire qu'ils ont fait une prière qui n'était même pas formulée. C'était un élan du cœur. Ils ont prié pour que ce Yetzer Hara soit aboli. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont prié ? Ce n'est pas si simple. Mais en tout cas, la Guémara dit que le Yetzer Hara leur a été livré sous forme d'un lionceau de feu qui sortait du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints. Ils l'ont pris, ce lionceau de feu, ils l'ont égorgé, et ils l'ont mis dans une marmite de plomb, dans une marmite qu'ils ont plombée. Ça. Ils ont mis du plomb tout autour. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'ils l'ont tué. bizarre tout ça. Vous y croyez, vous, qu'il y a un lionceau de feu dans le Kodesh, qu'on peut le prendre, dégorger, le mettre dans une marmite de plomb? C'est tout simple. D'abord, où est-ce que vous auriez mis, vous, le Yetzer Hara de la Avodah Zara? Vous l'auriez mis dans le Kodesh HaKodashim, vous? Moi, je l'aurais mis ailleurs. Peut-être qu'il... Moi, je l'aurais fait sortir des égouts, n'est-ce pas? Dans les égouts de Jérusalem, il y avait un lionceau de feu qui était à l'origine de l'Avodah Zara. Mais qu'il vit dans le Kodesh HaKodashim? Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? Il y a la présence de Dieu, il y a la Shekhina. C'était ça le lionceau de feu. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas de Yetzer Hara, d'idolâtrie, il faut abolir la présence de la Shekhina. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont enlevé la présence de Dieu du monde. À partir du moment où cette présence de Dieu est supprimée, il n'y a plus d'idolâtrie. Il n'y a plus non plus de prophètes. C'est fini. On passe au judaïsme rabbinique. On passe donc de la révélation à l'intellect. Et donc quelque chose reste en nous plombé. C'est dans une marmite de plomb. Et donc quelque chose en nous ne se développe plus. Mais ça veut dire que c'est resté quelque part. Viendra un jour où ça sera ouvert. On va le réouvrir. On pourra s'en servir, mais de manière sûre, parce qu'entre-temps, il y aura eu plusieurs milliers d'années de sagesse. D'accord ? La Guémara raconte qu'après cette prière, ils ont reçu un billet qui est tombé du ciel, sur lequel étaient écrites les lettres « Emet ». C'est le tampon de Dieu, la vérité, « Emet ». C'est-à-dire qu'il y a eu un accord. C'est-à-dire qu'il y a eu une décision qu'on rentrait dans une phase de l'histoire où l'homme allait devoir se débrouiller tout seul. Pour qu'il puisse se débrouiller tout seul, pas de Yetzer Hara d'Avodah Zara. D'un autre côté, il y a un affaiblissement de la personne. Et la Guémara dit qu'ils ont voulu également supprimer le Yetzer Hara de la débauche, Gilui Arayot. Et que ça a marché. Gilui Arayot, c'est les unions interdites. Les rapports sexuels interdits. Ils ont voulu supprimer ça. Il n'y a plus de Yetzer Hara pour ça. La Guémara dit que le lendemain, ils ont cherché un œuf pour un malade, ils n'ont pas trouvé. Alors ils ont prié que ça revienne. C'est pour ça que le Yetzer Hara est revenu. Mais il est plus faible qu'avant. Et la conséquence au niveau de la halakha, c'est que maintenant, on a le droit de s'isoler dans la même chambre avec sa mère, ce qui était interdit auparavant. D'accord ? Alors c'est devenu, c'est quoi le Yetzer pour sa mère ? C'est devenu le complexe d'Oedipe, c'est tout. Bon. Donc je reprends là. Maintenant, pour ce qui est de ta question, est-ce qu'il faut la poser à la fin du cours ? Non, je pense que c'est plus nécessaire. Bon. Agadol, Agibor, Vanora, Elélion. On peut continuer ? Bon. Gomel, Hasadim Tovim, Kone Akol, Vizocher Hasde Avot. Vous voyez ici ? C'est 3 par 3, n'est-ce pas? On avait vu Hachem, Eloheinu, Eloheinu Avotenu. Ça fait 3. Après, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Encore 3. Après, Gadol, Gibor, Nora. 3. Là, nous avons encore les conséquences du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est Gadol, Gibor et Nora. C'est qu'il est à la fois Gomel Hasadim Tovim, Kone Hakol. Chez les Ashkenazim, on dit Ve Kone Hakol. Il y a un Vav. Vezocher Hasde Avot. Alors c'est quoi ces trois choses-là? Il est tout d'abord pourvoyeur de bonnes grâces. Gomel Chassadim Tovim. Il donne des bonnes bontés. Ah bon? C'est quoi des bonnes bontés? Elles sont forcément bonnes, les bontés. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il donne des bonnes bontés? Ça veut dire qu'en fait, il y a deux sortes de bontés. Il y a des bontés bonnes et il y a des bontés mauvaises. Par exemple... je demande à quelqu'un, fais-moi, sois généreux. C'est très important pour moi, je veux m'acheter un revolver pour me suicider, mais j'ai pas d'argent. Enfin, la banque est fermée et voilà, je suis très embêté parce que bientôt le magasin de revolver va fermer, et c'est indispensable, absolument que je me suicide. Il peut pas me passer. Allez, passe-moi 100 balles. D'accord ? Je te donne un papier, un chèque, voilà. D'accord ? Alors, est-ce que c'est si je lui donne l'argent, c'est de la bonté, c'est de la générosité, mais c'est une générosité mal placée. D'accord ? Donc, il est dangereux de recevoir des bontés. On ne sait jamais si la bonté est une bonne chose. Et c'est pour ça que dans la tefila, on dit Gomel Hasadim Tovim. On sait que les bontés qu'il donne sont des bontés bonnes. D'accord ? Koné Hakol, ça veut dire quoi ? Celui qui possède tout. Il est l'auteur de tout. C'est-à-dire qu'il y a également une assurance. Une assurance que ça peut marcher, puisque c'est vraiment des bontés bonnes, puisqu'il est l'auteur de tout. Comment est-ce qu'il est auteur de tout ? En étant Gibor, justement. En étant Gibor, c'est-à-dire en se retenant. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit pour le Gibor ? Ezeo Gibor, dit la Mishnah, à Kovesh et Yitzro. Qui c'est qui est vaillant ? Celui qui retient ses instincts. Quel est l'instinct d'Akadosh Baruch Hu qu'il doit retenir ? C'est son infinité. Il pourrait se manifester en tout et donc annihiler les êtres. Il est Gibor, il se retient. Et en cela, il est Koné Hakol. C'est celui, et c'est de cette manière-là qu'il est auteur de tout. Vezocher Hasdei Avot. Il se souvient des bontés des Avot. C'est quoi ça, ce Zocher Hasdei Avot ? Là, ça touche à des concepts à élucider. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'alliance avec les prophètes, avec les Avot. Ça s'appelle comment l'alliance avec les Avot ? Brit Avot, l'alliance des Avot. N'est-ce pas ? Il y a un petit problème. Ah, il y a aussi ce qu'on appelle Zechut Avot. C'est quoi Zechut Avot ? Le mérite des Avot. Le mérite des Avot, ça veut dire que, étant donné que nos ancêtres étaient des gens très bien, Abraham, Yitzhak, Jacob, c'était extraordinaire ces gens-là. Et donc ils avaient beaucoup de mérite et ça, c'est dans notre compte. Dans notre compte, c'est-à-dire de temps en temps, quand il n'y a pas, nous n'avons pas de mérite par nous-mêmes, nous disons oui, mais nous avons le mérite de nos ancêtres quand même. Ça veut dire quoi avoir le mérite des ancêtres ? Je ne suis pas mes ancêtres. Pourquoi est-ce que j'aurais un mérite du fait que mes ancêtres c'était eux ? Simplement parce que je leur ressemble. C'est-à-dire, parfois, on dit, voilà, j'ai bien connu ton arrière-grand-père, c'était un type, c'était un vrai copain à moi. Et puis, quand je te vois, ça me rappelle ton arrière-grand-père. Alors, par le mérite de ton arrière-grand-père, je te donne ça. D'accord ? C'est-à-dire, parce qu'il y a encore une ressemblance. On sent une continuité entre l'ancêtre et le descendant. Ça peut durer combien de générations, cette ressemblance, cette continuité ? Ça dépend de la puissance de la personne. Il y a des gens dont la personnalité est tellement forte que 15 générations après, on sent encore la présence. Mais 16 générations après, c'est fini. Les Avot, c'était des gens gigantesques. La présence, disons, l'énergie, pourrait-on dire, le rayonnement de nos ancêtres était tel que ça a duré très longtemps leur mérite. Ça a duré combien de temps ? Hein ? Jusqu'à aujourd'hui ? Non, pas du tout. La Guémara dit dans Maseret Shabbat que le Zechut Avot est épuisé. C'est fini. Il n'y a plus de Zechut Avot. Tama Zechut Avot. Il n'y en a plus. Hein ? Ah, justement, il n'y a pas écrit Zechut ici. Une seconde. Il y a écrit Zohar, il n'y a pas écrit Zechut. Et donc, le mérite des Avot est fini. Il y a tout un débat dans la Guémara de savoir à quelle époque de l'histoire ça a été fini. Il y a, je crois, cinq opinions différentes. Mais d'après tout le monde, le Zechut est fini. Mais les Tosfot font remarquer, dans leurs commentaires sur le Talmud, c'est vrai que le Zechut Avot est épuisé, on a tiré le maximum, le compte est vide, mais le Berit Avot, l'alliance des Avot n'est pas finie. Pourquoi il y a une différence entre le Berit et le Zechut ? Le Zechut, c'est ce qui vient de l'homme. Même si un homme est gigantesque, il y a une limite à son Zechut. Ça peut durer 1000 ans, 2000 ans, et après c'est fini. Mais le bérite, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est infini. Donc, de son point de vue, le bérite est unilatéral. Il s'en fiche pas mal de savoir si on mérite ou on mérite pas. Lui, il a contracté son alliance, donc même sans mérite, ça continue. C'est le bérite. Maintenant, nous avons ici une expression intermédiaire. Il n'y a pas écrit bérite, il n'y a pas écrit zechut. Il y a écrit vezocher, il se souvient, hasdei avot, de la bonté des avot. C'est quoi Vezocher Hasdei ? si le Berit Avot continue. Donc, Am Israël est assuré que Akadosh Baruch Hu ne l'abandonne pas. Très bien. Mais c'est quand même dénigrant de compter tout le temps sur le Berit Avot. C'est même humiliant. Vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu, il nous aime bien, c'est à cause du Berit. Mais vous n'avez pas de mérite. La réponse, c'est que non, parfois nous sommes quand même méritants. C'est le fait qu'il y a le Berit Avot, ça fait que de temps en temps s'éveille en nous quelque chose du Zechut Avot. C'est-à-dire nous sommes capables de restituer l'image des Avot grâce au Berit Avot. Et quand nous faisons cela, nous reproduisons un Zechut. C'est ce qu'on appelle Zocher Hasde Avot. Grâce à nous, parfois il se souvient des bontés des Avot. Mais le fondement de ce souvenir, c'est le Berit Avot. Vous avez compris? Je n'ai pas été trop compliqué là? Bon, c'est très bien. Umevi Goel Livne Venehem. Alors là, il y a une conséquence à tout cela. Il amène un sauveur aux enfants de leurs enfants. Pourquoi on ne dit pas simplement à leurs enfants? On pourrait dire à Kadosh Baruch Hu, il envoie un sauveur à leurs enfants. Mais il en est les enfants de leurs enfants. Ça veut dire nous sommes des rescapés de rescapés. C'est-à-dire, ce qu'il reste d'un reste, c'est ça Israël. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de pertes dans l'histoire. Mais nous sommes les béné bénéhem, les fils des fils. Et donc, comme disait Manitou, si la voix s'est tue, l'écho n'est pas tari. Il reste quelque chose. Et c'est ce reste qui est puissant. Mevi goel ivne venehem, même si nous ne sommes que des restes de restes. Les ma'an shemo be'ahava. En faveur de son nom avec amour. Bon, là c'est très important. C'est quoi les ma'an shemo? En faveur de son nom. On pourrait se demander, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu amène-t-il la délivrance? Il faut pour cela un mérite? Ou pas? Ben la réponse est que non, pas besoin de mérite. C'est plus qu'une promesse, c'est un intérêt divin. Il fait ça en faveur de son nom. C'est-à-dire, le fait que nous soyons en exil est une profanation de son nom, donc c'est son intérêt à lui. Ce n'est pas simplement pour nous. Je voudrais vous citer à ce propos quelques versets des quelques versets d'Ézéchiel. Vous avez entendu parler d'Ézéchiel quand même. Ézéchiel était un prophète. Oui, c'est marrant ça. Toujours, mais alors toujours, le volume dont on a besoin n'est pas là. Il y a un Tanakh quelque part. Voilà, un Tanakh, là c'est très bien. Très très bien. Hazakbo. Ézéchiel chapitre 36, verset, ça commence par 16. Vaïd varachem elai il est mort. La parole de Dieu me fut adressée en ces termes. Ben Adam, c'est quoi Ben Adam? Fils de l'homme. Beit Israël, Yoshevim al admatam, la maison d'Israël sont installées sur leur terre. Vaïetameuota, ils l'ont souillé. Bedarkam uvar vilotam, par leur comportement et leur manigance. Ketum atanida aita darkam lefanaï. Leur chemin devant moi était comme l'impureté menstruelle. Vaishpor hamati alehem. Je déversais mon courroux sur eux. Aladam a cherché à froid la haaretz à cause du sang qu'ils ont versé sur la terre. Uvegilulehem tim ua, qu'ils ont souillé par leurs abominations. Ouh là là, j'ai peur. Va'afit sotam bagoim, je les ai dispersés parmi les nations. Va'yizaru ba'aratzot, ils se disséminèrent dans les pays. Kedarkam v'cha'alilotam shefatim, je les ai jugés en fonction de leur chemin et de leur manigance. Conclusion, j'ai bien fait. n'est-ce pas ? Je les ai punis. Il y avait un contrat entre moi et eux. Ils n'ont pas respecté le contrat, ils ont été punis. C'est normal. Vayavo et la Goïm Asher Baoucham. Ils sont arrivés dans les nations où ils étaient venus. Vayehalelu et Shem Kochi. Ils ont profané mon saint nom. Comment ils ont profané ? Comment ? Comment ? Qu'est-ce qu'il y avait de profanant ? Qu'est-ce qu'il y avait de profanatoire ? C'est effectivement Behemor Lahem, parce qu'on disait d'eux, Am Hashem Ele, ils sont le peuple de Dieu. Umearzo Yatsaou, ils sont sortis de son pays. C'est-à-dire que d'une part, Akadosh Baruch Hu, il nous a punis, on le méritait bien. Mais d'un autre côté, il y a un dommage qui a été causé à Akadosh Baruch Hu lui-même. Son nom est profané parmi les nations. Quelle est la profanation ? Pas le comportement des Juifs. Le fait même de leur exil, même s'ils sont des tzadikim, ce sont les meilleurs des hommes. Mais, ils sont le peuple de Dieu. Alors pourquoi ils ne sont pas sur sa terre ? Donc l'exil est en soi est un chiloul Hashem. D'accord ? Ils ont fait là-bas des boucheries cachères, des yeshivot, il y a un mikvé partout, il y a des synagogues, profanation du nom de Dieu. Va ehmol al shem kochi, j'ai pris en pitié mon saint nom, asher chililu bet Israël bagoyim asher baoucham, que les enfants d'Israël, que la maison d'Israël a profané dans les, parmi les nations où ils sont venus. La reine est mort, les vêtements d'Israël. C'est pourquoi il faut que tu dises à la maison d'Israël, « Ko amar Adonai Elohim, ainsi parle l'Éternel Dieu. Lo lema'anchem ani oseh bet Israël, ce n'est pas en votre faveur que j'agis, maison d'Israël. Ki im leshem kochi, mais je fais ça pour mon saint nom. Asher chilaltem bagoyim asher batem sham, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. Vekidashti et shemi agadol, je vais donc sanctifier mon grand nom. Amechulal Bagoyim, qui est profané parmi les nations, Asherhi Latem Betoham, que vous avez profané parmi eux. Viadero Agoyim, Kani Hashem, Nuwadna Elohim, et alors les nations sauront que je suis l'éternelle parole du Seigneur Dieu. Vikadeshi Bachem Lehenem, lorsque je me serai sanctifié en vous, à leurs yeux. Velakarti Etrem Minagoyim, que je vous prendrai de parmi les nations. Vekibatsi Etrem Mikola Aratzot, que je vous rassemblerai de tous les pays. Veveti Etrem Eladmatrem, et que je vous amènerai sur votre terre. Ça veut donc dire que le sionisme ne vient pas par le mérite des Juifs. Il vient parce qu'il y a un intérêt d'Akadosh Baruch Hu lui-même qui ne peut pas se permettre que son nom soit profané si longtemps. On dit ça tous les jours dans la prière. « Umevi goel ivnev ne'em » Il amène un sauveur au fils de leur fils, les man shemo, en faveur de son nom. Donc vous voyez bien que l'auteur de la prière a tiré ça d'Ézéchiel. Be'ahava, avec amour. C'est bizarre cette histoire de avec amour. Parce que, étant donné que c'est un intérêt divin, donc il fait ça pour lui, pas pour nous. Donc vous pourrez le faire sans amour. Eh bien, il le fait quand même avec amour. Il pourrait le faire violemment, durement. Mais il le fait quand même avec amour. Vous avez suivi jusqu'à présent ? Meler, Ozer, ou Moshia, ou Maguet. Vous avez remarqué que c'est ça le texte de la prière. C'est-à-dire quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, notre adresse à lui est insérée dans le devenir historique. Il est l'ancêtre, il est le Dieu de nos ancêtres, et comme il est le Dieu de nos ancêtres, il va nous amener le Sauveur, il le fait avec amour en faveur de son Saint-Nom. C'est-à-dire la toute première bénédiction est imprégnée, imbibée, jusqu'aux ongles, de sionisme. Remarquez. Maintenant, il y a autre chose, c'est que la Gemara nous dit que si on n'a pas eu la kavana nécessaire dans la première bénédiction, on n'est pas acquitté de la prière. C'est-à-dire que la prière a de sens que si elle est focalisée autour des avot. Et du devenir historique que ça implique. C'est exactement ce que dit Rabbi Yehuda Lévi dans le Kuzari. Nous croyons dans le Dieu des Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Melech, Ozer, Umoshia, Umagen. Roi, aidant, sauvant et protecteur. Ah bon? C'est quoi tout ça? Meler, roi, c'est-à-dire celui qui domine. Ozer, qui aide. Ça veut dire quoi aider? Faire quelque chose pour une autre personne qui fait des efforts. Bon, je vais t'aider à déplacer les briques. Ça veut dire que toi aussi tu vas en déplacer, mais je vais t'aider, moi aussi je vais en déplacer. On travaille ensemble. C'est ça, aider. Moshia, sauveur, c'est quoi? C'est celui qui ne peut pas s'aider. Parce que quand on s'aide, quand on est aidé, il y a une expression en français qui est « aide-toi, le ciel t'aidera », n'est-ce pas? C'est ça qui est dans l'idée de « ozer ». C'est-à-dire, je fais un effort et Akadosh Baruch Hu s'associe à moi. Mais il y a des situations où je ne fais pas d'effort, du tout. Et Akadosh Baruch Hu me sauve, Moshia. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit nous sommes méritants, soit nous ne sommes pas méritants. Si nous sommes méritants, c'est bien. Si nous ne sommes pas méritants, eh bien quand même il nous sauve. Ozer ou Moshia. Alors il y a un petit problème moral dans cette histoire. Comment y aurait-il la Géoula sans mérite? Et alors, et la justice? Il faut être juste. Si nous sommes déméritants, il n'y a pas de raison de nous sauver. La raison est que, étant donné que la délivrance, elle n'est pas dans l'intérêt des hommes, mais dans l'intérêt de Dieu, donc Dieu y sauve de toute manière. Mais, malgré tout, il y a un les comptes à rendre par rapport à la Midat Hadin ne sont pas éliminés, mais ils seront réservés pour plus tard. Umagen, protecteur. Ça veut dire quoi, protecteur? Protecteur, ça veut dire gratuit. En araméen, le mot magan, qui ressemble au mot hébreu magen, en araméen, le mot magan veut dire gratuit. Magena. C'est-à-dire qu'il y a parfois des éléments de gratuité en ce qui concerne la collectivité d'Israël. Pas l'individu. L'individu est toujours jugé. Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction qui vient à moi en tant que miséricorde. Et ça, c'est comme ça qu'on avait expliqué les trois premiers mots. Baruch Ata Hashem. Baruch, source de bénédiction. Ata, qui vient à moi. Et Hashem, en tant que miséricorde. Magen Abraham, protecteur d'Abraham. Ah bon? Pourtant, on a dit qu'il était Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak et Dieu d'Yaakov. Pourquoi, lorsque l'on clôt la bénédiction, on parle d'Abraham seulement? C'est vrai que le mot Magen est employé dans la Torah à propos d'Abraham. Dans la révélation de Kadosh Baruch Hu, dans le chapitre 15 de Bereshit, Dieu dit à Abraham, Anochi Magen Lach, je suis ton protecteur. Mais si déjà on a parlé d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors pourquoi est-ce qu'il dit ici Magen Abraham seulement? Bonne question. Est-ce que la question est claire? D'accord? Tu as compris la question? Tu veux donner une réponse? Essaye. Essaye.
Moi aussi j'essaye. Parce que quoi?
Alors dans le cas, on devrait dire Magen Abraham Yitzhak Yaakov. Je devrais clore là. Ou bien Magen Avot. Magen Avot, par exemple. Par exemple, le soir du Shabbat, on dit Magen Avot Bidvaro, protecteur des Avot. Alors pourquoi ici mentionner seulement Abraham? À la façon d'Abraham. Justement, pourquoi ne mentionner que la façon d'Abraham? Oui. C'est le premier des patriarches, c'est vrai. Et oui. Oui. Ah donc, dis-tu qu'on a déjà parlé de Yitzhak et de Yaakov? Quand on dit Abraham, on a parlé des autres. Puisqu'il est l'ancêtre, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on le bénit en tant que Dieu de l'ancêtre des Béné Ishmaël et des Béné Esav aussi. Abraham avait un autre fils, d'autres fils d'ailleurs. Et donc c'est ça qu'on veut dire dans la prière? On mentionne également toutes les nations issues d'Abraham? Hein? Ah, très bien, très bien. C'est presque ça. Je reprends ici dans le livre de Bereshit. C'est comme tu dis. Dans la Gemara, on nous explique le verset dans Bereshit chapitre 12. Quand Dieu dit à Abraham, Ve'esra l'egoï gadol, je ferai de toi une grande nation. La Gemara dit, ça veut dire, c'est qu'on dira Elohé Abraham, Dieu d'Abraham. Alors Abraham était tout content quand il a entendu ça. Va'avarechecha, je te bénirai, c'est qu'on dira Elohé Yitzhak, Dieu d'Yitzhak. La Gemara dit qu'Abraham a fait la grimace. Va'agadela shemecha, j'agrandirai ton nom, c'est qu'on dit Elohé Yaakov. Alors Abraham n'était vraiment pas content. Veillez Beracha, et tu seras une bénédiction. C'est par toi qu'on clôt la bénédiction, puisqu'on dit Magen Abraham. Et Abraham est redevenu content. La Guémara dit que on peut être jaloux de tout, et qu'on n'est jaloux ni de son fils, ni de son élève. Bakol Adam Itkane, Chutz Mimnov Zetalmido. Et là, on voit, d'après ce texte de la Guémara, qu'Abraham était jaloux de ses enfants et petits-enfants. Il n'est pas content qu'on dise Dieu de Yitzhak, Dieu d'Yaakov. À tel point que Kadosh-Barouh a besoin de le calmer en lui disant t'en fais pas, à la fin on dit Magen Abraham. Magen, c'est-à-dire protecteur. Bouclier. Bouclier.
Hein?
Parfois c'est parce que. C'est-à-dire que on revient en boucle et la bouclier. Abraham, on revient à Abraham. Oui? Exactement. Ça veut dire qu'en fait, Abraham avait une conception universaliste, enfin, même, on va dire, humaniste de son rôle. Il voulait englober toute l'humanité dans son message. À partir du moment où on dit Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, c'est une restriction au niveau national. Il est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça passe par la nation d'Israël et pas par autre chose. Abraham est très embêté par ça. Ça remet en question son humanisme. Alors, je me dis, ne t'en fais pas, c'est par toi qu'on finit. Ça veut dire que ton projet se réalisera justement comme ça. C'est pas parce qu'il y a exclusion des autres, mais au contraire, c'est parce qu'il faut sauver tout le monde que ça passe précisément par une restriction nationale. Par Abraham, Yitzhak, puis Yaakov, et le résultat, c'est Magen Abraham. Vous avez compris ? D'accord. Donc tout s'explique. Donc la bracha est bien claire. En fait, la bracha, ici, elle nous donne une définition aussi général que possible, de qui est le Dieu de l'histoire d'Israël, celui auquel la prière est adressée. C'est plus clair maintenant ? Bon, on peut continuer dans ce cas-là. Ata Gibor, tu es vaillant. La première bénédiction, elle a dit qu'elle répondait à la question « qui ?» Et la deuxième répond à la question « quoi ?» C'est-à-dire, je veux savoir à qui j'adresse ma prière, maintenant je veux savoir qu'est-ce qu'il peut me donner. Et il peut me donner ce qu'on appelle Gevurot. Gevurot, ça veut dire la puissance. C'est-à-dire, quelle est la puissance de Dieu ? Il y a un problème dans le mot Gevurot, la puissance. Ça, c'est une question qui est posée par la Gemara dans plusieurs passages. C'est comment est-ce qu'on peut dire la puissance de la Kadosh Baruch Hu ? C'est impossible. Hein ? C'est comme si on l'évaluait. Par exemple, la Guémara dit, c'est comme quelqu'un, un roi qui possède 1000 milliers, c'est-à-dire 1 million, de pièces d'or. Et on dit, il possède 1000 pièces d'argent, ce qui est dénigrant. Alors que, il y a une réduction au niveau quantitatif et qualitatif. Tu passes du million à 1000, tu passes de l'or à l'argent. Et donc, on ne peut pas dire d'Akadosh Baruch Hu quoi que ce soit, dire sa Gevura, sa puissance, c'est de réduire. Alors la Guémara demande comment se fait-il que dans la deuxième bénédiction de la Amida, on récite une série d'actes de puissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est blasphématoire. On devrait dire soit tout, c'est impossible, soit rien. Mais dire une partie, ça ne tient pas. C'est la question que pose la Guémara. Oui ? Oui, par exemple. C'est péjoratif. Ça pose un problème. Alors, Guémara dit, c'est très simple. on a mis dans la liste ce qui était équivalent à la résurrection des morts. Il y a un critère. On a fait une liste des choses qui sont équivalentes à la résurrection des morts, telles que la guérison des malades, etc. Pourquoi la résurrection des morts est-elle prise comme critère ? Tout simplement parce que c'est ça la puissance à l'absolu. C'est-à-dire transformer le néant en être. La mort, c'est la néantisation. Ressusciter les morts, c'est passer du néant à l'être. Donc, de notre point de vue, toutes les puissances du monde sont incluses dans cette puissance-là. D'où la concentration du texte autour de la résurrection des morts.
On voit aussi la naissance.
Hein? La naissance. La naissance, c'est aussi une phase, c'est sortir de, c'est une résurrection des morts. Ouais. Oui, mais on va voir que c'est mentionné dans la liste. C'est mentionné d'une certaine manière. D'accord? On va y voir, on va y arriver. Je reprends ici le texte. Ata Gibor. Non, mais écoutez, là, je pense que ça serait aller trop vite, parce qu'il nous reste si peu de temps que nous ne pourrons pas étudier cette bénédiction maintenant. Donc, nous n'avons pas le choix. Le cours est donc fini. On se reverra la prochaine fois. Shalom.